Tu ne peux pas retenir le temps. Il passe. Il coule entre tes doigts comme l'eau de la fontaine, il glisse dans ta main comme le sable de la mer. Tu ne peux rattraper le passé, il n'est plus. Il s'en est allé comme le couchant d'hier, il est disparu comme un souvenir perdu. Tu ne peux emprisonner le futur, il n'est pas encore. Il viendra à son heure comme le levant de demain. Il te rejoindra comme la vague qui s'approche du rivage. Mais tu peux toujours cueillir le présent comme un présent de Dieu. Ce présent est comme un grand arbre. Il plonge ses racines dans ton passé, tout plein de souvenirs et d'expériences, comme une sagesse accumulée. Il lance ses branches vers ton futur, tout plein de promesses et d'espérances. Le présent est fait de ton passé qui n'est plus et de ton futur qui n'est pas encore. Alors, prends le temps qui t'est donné. Il est comme l'eau du ruisseau qui est toujours disponible. Prends ton temps. Ne dis pas « je n'ai pas le temps ». Dis plutôt « j'ai tout mon temps ». Alors, ne cours pas tout le temps. Prends ton temps et tu découvriras au fil du temps que la grâce et que la paix te sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Bienvenue à chacun d'entre vous pour ce culte. Vous avez pris un peu de temps ce matin, du temps vous a été offert. Bienvenue à Pierre-Olivier Léchaud, doyen de la faculté de théologie du boulevard Arago, qui a accepté de prendre sur un temps bien occupé pour prêcher. Aujourd'hui, il l'a fait en remplaçant quasi au pied levé le pasteur Jean Dietz, pasteur du Creusot, qui devait nous délivrer le message aujourd'hui, mais qui a des problèmes de santé et qui est en arrêt maladie. Frères et sœurs, je vous invite à la prière. Prions. Ô notre Dieu, toi, le maître du temps, nous te rendons grâce pour ce temps que tu nous donnes ce matin. Oui, rends-nous capables de t'écouter. Fais-nous profiter de ce temps pour admirer et pour respirer, pour nous taire et pour nous arrêter, un temps pour sourire et pour remercier, pour réfléchir et pour pardonner, pour aimer et pour vivre en vérité. Amen. Je vous invite à vous lever pour bénir l'Éternel. Nous louons l'Éternel. Merci pour le pain, le vent, la terre et l'eau. Merci, ô notre Dieu, pour la musique et pour le silence. Merci pour le miracle de chaque nouveau jour. Merci pour les gestes et les mots de tendresse. Merci pour les rires et les sourires. Merci pour tout ce qui nous aide à vivre malgré les souffrances et les détresses. Merci à tous ceux que nous aimons et qui nous aiment. Et que ces mille merci se transforment en une immense action de grâce quand nous nous tournons vers toi, ô notre Dieu, source de toute grâce et rocher de notre vie. Merci pour ton amour sans limite. Merci pour la paix qui vient de toi. Merci pour la liberté que tu nous donnes. Avec mes frères, je proclame ta louange pour notre vie qui est entre tes mains, pour nos cœurs qui te sont confiés, pour les bienfaits dont tu nous combles et que nous ne savons pas toujours voir. Dieu bon et miséricordieux, que ton nom soit béni à jamais. Amen. Et je vous invite à poursuivre cette louange en chantant le psaume 42, les strophes 1, 4 et 9, le psaume 42. Écoutons maintenant la loi que Dieu nous donne. Ne proférez plus de mensonges et que chacun dise la vérité à son prochain. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Que celui qui volait ne vole plus, mais qu'il s'adonne à la solidarité en secourant ceux qui sont dans le besoin. Ne colportez nul mauvais propos, mais proclamez toute bonne parole capable d'édifier, de réjouir et de consoler ceux qui l'entendent. N'attristez pas le souffle de Dieu, maître de votre salut. Aigreur, emportement, colère, clameur, outrage doivent être chassés de vos vies. Au contraire, soyez bons et compatissants les uns pour les autres. Pardonnez-vous mutuellement, puisque Dieu en Jésus-Christ vous a déjà pardonné. Amen. Seigneur, je viens d'entendre ta volonté. Si je suis rigide, accorde-moi un esprit souple afin que je paraisse faible et sans défense plutôt que de peiner ou de briser. Si je suis tortueux, accorde-moi un esprit droit afin que je n'interprète jamais en mal la peine que l'on me fait. Si je suis orgueilleux, accorde-moi un cœur humble afin que je ne me raidisse pas devant les critiques. Si je suis susceptible, accorde-moi un cœur large afin que je supporte les étroitesses d'esprit. Si je suis timoré, accorde-moi une volonté ferme afin que je persévère malgré l'ingratitude. Oui, Seigneur, prends pitié de moi. Accorde-moi surtout de savoir écouter, de savoir deviner, de savoir pardonner, afin que mes frères soient moins malheureux. Je vous le déclare, c'est la vérité, dit le Christ. Celui qui écoute mes paroles et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne sera pas condamné, il est déjà passé de la mort à la vie. Puisque vous êtes croyants, recevez en Jésus-Christ l'assurance que Dieu vous pardonne et vous donne vie. Je vous invite à vous lever pour chanter à Dieu notre reconnaissance. Je crois que Dieu nous aime. Je crois qu'il se tient patient auprès de nous, Je crois qu'il prend la main que nous ouvrons pour nous faire découvrir ce que sont la paix et la joie. Il nous demande d'exister dans une vie nouvelle, une existence de fils et de filles à la suite de Jésus. Je crois que Jésus-Christ est venu incarner l'amour de Dieu. Je crois que cet amour a été manifesté dans ses gestes et ses paroles à des hommes et des femmes qui nous ressemblent. Je crois qu'il a su se laisser porter par Dieu pour faire advenir son royaume. Je crois que sa souffrance témoigne de la douleur de Dieu devant la souffrance des hommes. Je crois que sa résurrection est une manifestation de la présence de Dieu dans nos ténèbres. Je crois que l'Esprit Saint nous fait recevoir l'amour de Dieu. Je crois qu'il est à l'œuvre dans notre monde d'aujourd'hui et qu'il fait se lever une multitude d'hommes et de femmes. Je crois que cet Esprit nous fait reconnaître les signes du royaume donnés dès maintenant. Je crois enfin qu'au sein de la communauté chrétienne se transmet le rôle de veilleur pour dire notre espérance au monde. Amen.
Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Frères et sœurs, je vous invite à lire dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 9, les versets 16 à 23. Si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'Évangile que j'annonce, sans user de mon droit de prédicateur de l'Évangile. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi. Comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait toute à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. Seigneur, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Je vous invite, frères et sœurs, à chanter dans votre recueil « Louanges et prières » le numéro 202 « Nos cœurs pleins de reconnaissance », les strophes 1, 2 et 3.
Nous te bénissons.
Ô Dieu, notre Père, ta parole est pour nous ferment du royaume et germe d'espérance. Que par ton esprit, nous la recevions avec simplicité et avec joie. Que cette parole nous fasse porter les fruits que tu attends de nous. Voici Paul, chers frères et sœurs. Paul, l'avorton de Dieu, annonçant l'évangile de la liberté à ses frères et sœurs de Corinthe. Or, cet évangile libérateur, cette puissance de liberté dont le souffle ne s'est jamais éteint, voilà que Paul le décrit comme une contrainte qui lui est imposée. Pire, une nécessité. Ananke en grec, ce mot que Victor Hugo faisait écrire à Claude Frollo sur un des murs de Notre-Dame de Paris au commencement de son sombre roman. Serions-nous donc des misérables de l'Évangile ? Auraient-ils raison, celles et ceux qui, tout comme Nietzsche, voient dans le christianisme et son soi-disant message de liberté une forme nouvelle de misérabilisme, de contrainte, voire d'asservissement ? Non pas, chers frères et sœurs, non pas. Certes, ce passage de l'apôtre nous rappelle, s'il était besoin, que son engagement n'a pas grand-chose à voir avec le ton et les manières de ces super apôtres télégéniques dont on nous rebat aujourd'hui les oreilles à propos de leur succès dans la lutte contre la drogue, l'alcool ou les jeux vidéo. Prêcher l'Évangile pour Paul n'est pas une évidence. Ce n'est pas non plus une sinécure ou une tournée triomphale autour de la Méditerranée, faite de conversions spontanées et de miracles en cascade. Loin de là, c'est une entreprise rude, délicate et qui lui impose maintes violences ainsi que de nombreuses déchirures. Les historiens et les exégètes, mais aussi tout simplement ces lettres sont là pour nous le rappeler. Partout où Paul prêche, il rencontre certes du succès, mais aussi des résistances et de profondes déceptions. Partout où il prêche, ceux qui, dans un premier temps, l'ont accueilli avec bienveillance, se révèlent finalement comme de coriaces adversaires. Et ils ont souvent la main lourde, mésentente, trahison, lâcheté, cabale, dissimulation, voire fausses accusations constituent son lot presque quotidien. Paul, lui aussi d'ailleurs, a sans doute connu ses propres égarements. Admettons-le sans faux semblant, l'apôtre des gentils et les premiers chrétiens furent des hommes, rien que des hommes, avec leurs failles, leurs faiblesses et leur capacité à la petitesse et à la mesquinerie. Penser le contraire serait une pure illusion, à la fois vis-à-vis de ce que fut la vie des premières communautés chrétiennes, mais aussi de ce que sont nos paroisses et nos églises aujourd'hui. Karl Barth avait sans doute raison de pointer du doigt ce fait. L'Église, c'est tout à la fois l'engagement sans faille de personnalités qui donnent jusqu'à leur vie pour les autres et les petites mesquineries de nos vies paroissiales. et il n'en allait pas autrement du temps de Paul. Mais justement, qu'est-ce qui peut bien faire courir Paul ? Qu'est-ce qui le motive et l'engage, malgré tout ? Ce qui caractérise et peut-être distingue Paul au milieu de toute cette médiocrité, c'est d'abord sa capacité à prendre du recul et à placer son action et sa réflexion à la lumière de sa vocation au service de l'Évangile. Une vocation dont il a compris qu'elle n'était pas un libre choix, le fait de son inclination subjective ou de ses goûts personnels. Ce n'est pas un hobby. Il ne prêche pas comme on fait du parapente ou du tennis de table pour se réaliser ou se sentir épanoui. Non, s'il prêche, c'est parce qu'il s'agit pour lui d'une réalité qui le définit de part en part. Annoncer l'Évangile, c'est son être le plus profond. Prêcher n'est pas pour lui source de bonheur, mais de sens. Il sait que cette vocation est devenue le fond de son être, sa réalité la plus intime, et que c'est elle qui donne sens à sa vie. Mais surtout, Paul a compris qu'être libre, ce n'est pas être sa propre loi et faire ce que l'on veut en fonction de sa satisfaction ou de sa déception. Il a compris qu'être libre consiste au contraire à reconnaître sa dépendance face au monde, face à la vie et face à ses autres, tous ses autres qui si souvent déçoivent et blessent, qu'il s'agisse de ces Corinthiens déviants ou de ces Galates stupides auxquels il continuera pourtant de prêcher, vaille que vaille. Paul a aussi et surtout compris que sa seule gratification consistait à faire ce qu'il a à faire. Quelle est donc ma récompense ? C'est d'offrir gratuitement l'Évangile que j'annonce, sans user de mon droit de prédicateur de l'Évangile. Paul fait ce qu'il a à faire, et son seul salaire, sa seule récompense, consiste à le faire. Il n'espère aucune reconnaissance, aucune gratification, et surtout, il ne se repose pas sur ses résultats. Il y a un peu en lui de cette devise qui fut celle de Guillaume d'Orange. Vous savez, point n'est besoin d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. Peu importe le résultat, peu importe les déceptions, les reniements, les détournements et les mesquineries des Corinthiens ou des Galates. Paul a librement renoncé à réclamer son dû, à être reconnu par ceux auxquels il a voué sa vie. Mais il continuera pourtant, envers et contre tout, à leur annoncer l'Évangile. On pourrait bien sûr voir dans cette sorte de lâcher prise une forme d'aveuglement ou de résignation. Mais ce n'est pas ce que Paul nous laisse entendre. C'est au contraire en reconnaissant tout cela, en reconnaissant que les choses sont ainsi, que les hommes sont des hommes, mais que seul compte son engagement, sa fidélité à ce qu'il est et doit être, qu'il peut acquérir la liberté nécessaire pour se tourner vers les autres. Or, ce que Paul cherche à montrer aussi ce faisant, c'est que son expérience en tant qu'apôtre vaut pour tout croyant. Car la foi en l'Évangile de Jésus-Christ est à ses yeux, et paradoxalement, la source d'une libération, mais d'une libération qui passe aussi par un asservissement. Car si pour Paul, c'est pour la liberté que nous avons été libérés, Galates 5, c'est aussi en nous laissant devenir esclaves sous le régime nouveau de l'Esprit, Romains 7, ou comme il l'écrit dans sa première lettre, celle qu'il adresse aux Thessaloniciens en nous laissant soumettre au Dieu vivant. Car c'est là, justement, que se situe le point central. Pour Paul, cette servitude est celle due au Dieu vivant, au Dieu de la vie et non de la mort. Non pas une idole de bois, non pas la lettre morte d'un code de la route morale, mais le Dieu vivant, la puissance créatrice qui habite l'univers et qui nous appelle toutes et tous à vivre notre vie pleinement, à être nous-mêmes devant lui. Ce que Paul expérimente, c'est une servitude totale au Dieu de la vie, ce qui ne veut rien dire d'autre que laisser la vie divine avoir l'initiative à chaque moment de l'existence. s'inscrire dans la dynamique du Dieu vivant, se sentir appelé de manière nécessaire à occuper pleinement cette vie, c'est laisser Dieu grandir en nous, nous sentir autorisés à vivre tel que nous sommes. C'est pour le dire avec les mots d'Ernst Troeltsch, s'élever au niveau d'une personnalité qui se constitue et s'accomplit dans la consécration à quelque chose de ressenti comme nécessaire. Car cette liberté face à la vie, cette inscription dans le sens de la vie, nous permet justement d'accueillir les autres et de les servir, malgré leurs failles, leurs petitesses et leurs défauts. Elle nous commande même de le faire. Servir, ce n'est pas d'abord se servir soi-même au travers des autres, se rendre important en se mettant au service des autres pour se grandir en se sentant l'âme d'un sauveur. Servir, pour Paul, c'est accepter le fait de se tourner vers autrui comme une nécessité, en reconnaissant que l'autre exige que nous le regardions comme un frère ou comme une sœur. Non pas pour tout accepter de lui, mais pour lui annoncer, justement, par notre attitude d'homme ou de femme libre, ce message que nous avons nous-mêmes entendu et qui lui est également destiné. C'est au fond le grand message de la Réforme. Nous avons été libérés pour nous mettre au service des autres et leur annoncer à notre tour leur libération. C'est dans la distance face à lui-même et dans le total abandon à la vie divine qui se manifeste en lui que le croyant peut justement trouver la force de servir vraiment celles et ceux au-devant desquels il s'est porté, et ce, malgré leur mesquinerie et leur petitesse. Paul est l'apôtre de l'Évangile et de la liberté. Mais si Paul peut l'être, c'est parce qu'il a appris à vivre cette liberté qu'il annonce. Vivre la liberté. Vivre la liberté face aux résultats de sa prédication. Vivre la liberté en dépit des réactions négatives de celles et ceux qui l'entendent. Vivre la liberté enfin et surtout face à soi-même et à ses propres épines plantées dans sa chair. Paul a renoncé à trouver une justification à la tâche qui est la sienne. Il n'a pas besoin d'aller chercher des justificatifs factuels à son action. Il ne prétend pas se concentrer sur une forme particulière de liberté, qu'elle soit sociale, économique ou politique, pour tenter de défendre la légitimité de sa prédication. Non, il entend simplement annoncer la liberté qui lui a été conférée par sa vocation elle-même. La pure et simple liberté d'annoncer la liberté aux autres. Or, cette liberté dont parle Paul s'adresse, je crois, à chacune et chacun d'entre nous. Et il nous est demandé, à notre tour, de l'annoncer à tous ceux que nous croiserons. Il nous est demandé, à chacune et à chacun d'entre nous, de devenir des prédicateurs de la liberté. Ce ne sont pas seulement les pasteurs, les prédicateurs dits laïcs ou les ministres de nos églises qui sont appelés à prêcher la liberté, mais bien chacune et chacun d'entre nous, à sa place et à sa manière, en faisant de sa propre vie et de sa façon de la laisser se déployer une chair de laquelle jaillira la promesse d'une liberté sincère et profonde. Tous théologiens, disait Raphaël Picon. Je dirais volontiers pour ma part, tous prédicateurs, tous annonciateurs de l'Évangile. Car cette expérience de Paul annonçant l'Évangile, c'est la nôtre, chers frères et sœurs. Nous sommes tous contraints, prisonniers de notre vie, de nos expériences, des marques physiques, morales, psychologiques que la vie nous a imposées. Nous sommes tous victimes d'un traumatisme qui ne disparaît pas, d'un mariage qui est devenu une prison, d'une maladie qui nous ronge, d'une phobie qui nous oppresse, d'une profession qui nous enferme. Nous sommes tous des petits, des faibles à notre façon. Nous sommes tous des misérables. Oui, Victor Hugo, encore lui, a peut-être raison. La misère, ce terme si prisé des réformateurs pour parler du péché, décrit bien une réalité, celle de l'être humain qui veut se fonder lui-même, se justifier, agir seul et vaincre toutes les oppositions, mais qui, pour peu qu'il se regarde avec lucidité, sait qu'il ne peut le faire seul. Or, le message de l'Évangile ne nous dit pas qu'en nous confiant à Jésus, nos mots s'effaceront comme par magie, mais qu'en l'Évangile se trouve une parole qui nous dit que nous pouvons, comme le paralytique de la parabole, nous charger de notre lit et marcher, aller de l'avant avec nos fardeaux, notre peine et nos souffrances, mais aller de l'avant pour grandir, pour vivre et pour être. Certains le feront en se tournant vers de nouvelles réalités qui leur permettront de se refonder et de repartir à la découverte de l'existence en toute liberté, d'autres en faisant de leur faiblesse une force. Peu importe, au fond, l'essentiel est qu'ils deviennent, pour reprendre cette belle formule de Karl Barth, des captifs de la liberté qui pourront à leur tour l'annoncer aux autres. Libérer les gens, leur annoncer cette liberté que l'Évangile de Jésus-Christ nous annonce, leur offrir un souffle nouveau et leur dire qu'ils peuvent être ce qu'ils sont, passe d'abord et avant tout par le fait de leur montrer que l'on peut être libre même si l'on est contraint. Toutes et tous, chacune et chacun d'entre nous, nous pouvons montrer à notre prochain qu'il peut être ce qu'il est en étant nous-mêmes, simplement et en toute liberté, ce que nous sommes vraiment. Oui, vivre la liberté et servir les autres sont les deux faces d'une même médaille. Vivre libre permet de se tourner vers les autres parce que j'ai moi-même entendu une parole prononcée pour me libérer. Et c'est d'ailleurs pourquoi je suis là, chers frères et sœurs, parce que je suis convaincu que cette parole vous concerne aussi, toutes et tous. Regarder les autres, en prendre soin, être juif avec les juifs, sans loi avec les sans loi, comme l'écrit Paul, ne signifie pas dépendre de leur jugement et se renier soi-même pour leur faire plaisir. Au contraire, c'est précisément parce que je sais que je suis libéré de toute convention dans ma relation à autrui, de tout regard jugeant, que je peux être avec lui celui qu'il attend de moi, tout en restant moi-même. Se faire juif pour les juifs, sans loi pour les sans loi, ce n'est pas renoncer à la liberté, mais précisément l'incarner encore et encore dans la relation sincère et libre à autrui. Vivre cette liberté face à autrui et lui en faire cadeau, cela n'est rien d'autre que le royaume dont parle Jésus. Car les autres, ce n'est pas l'enfer, mais bien le royaume. Une promesse de rencontre qui nous bouleverse, celle d'un « tu » qui nous permet de devenir un « je ». Les autres, ce sont certes ces Galates stupides et ces Corinthiens dépravés, mais ce sont aussi des espoirs de rencontre et une promesse de joie. Voilà pourquoi Paul peut se permettre de tant parler de joie dans ses lettres, parce que cette joie dont il parle si souvent est celle de la liberté. La liberté et la joie. Magnifique programme, n'est-ce pas, chers frères et sœurs? Laissez-moi finir par un peu d'histoire. Une histoire plutôt récente dont certains se souviendront peut-être. À Noël 1989, en plein Berlin-Est, a eu lieu un concert destiné à célébrer la chute du mur et les retrouvailles des deux Allemagnes. Ce concert, vous vous en souvenez peut-être, était dirigé par Leonard Bernstein et comportait au programme la 9e symphonie de Beethoven et son fameux hymne à la joie. Or Bernstein, ce grand chef si passionné par l'œuvre de Beethoven, a fait un choix surprenant ce soir-là. Il a décidé, au scandale, de remplacer le mot « Freude », joie en français, dans le texte de l'hymne à la joie, par le mot « Freiheit », liberté. Bernstein, j'en suis persuadé, avait senti que ces deux mots allaient de pair, parce qu'en eux deux se trouve résumée la substance de ce qu'est une humanité vécue en toute liberté, c'est-à-dire non pas en dépit, mais avec et grâce aux autres, ce que précisément le texte de Schiller mis en musique par Beethoven souligne abondamment. Alors permettez-moi une petite suggestion pour terminer. Rentrez chez vous après le culte, chers frères et sœurs, écoutez l'hymne à la joie et laissez-vous convaincre que c'est de liberté qu'il s'agit lorsque le cœur entonne ces mots « joie, liberté, tes charmes assemblent ce que sévèrement les coutumes divisent, tous les hommes deviennent frères lorsque se déploie ton aile douce. » Amen. Frères et sœurs, je vous invite à vous lever pour chanter non l'hymne à la joie, mais c'est tout comme que la moisson du monde est grande. Au numéro 222 de notre recueil Louanges et prières, nous chantons les strophes 1, 2 et 3.
Amis paroissiens, bonjour. Je renouvelle nos remerciements au professeur Pierre-Olivier Léchaud. Je me remercie également David Cassan, organiste co-titulaire de l'orgue. Et merci à Gérard Delain, sans qui je n'aurais même pas su mettre en marche ce micro. À midi, se tient le repas paroissial, Salmono. Si vous avez réservé, cela a facilité grandement le travail des bénévoles. Mais dans le cas contraire, vous serez également très bien accueillis. Et c'est lundi 5 février. Grec biblique pour progressants de 19h30 à 21h par Aurore Mérieux, salle Roberti. Mardi 6 février, philosophie et théologie. Dans le cadre du cycle « La religion d'un philosophe ou la philosophie d'un théologien » proposé par les philosophes Olivier Abel, Philippe Gaudin, Denis Guénoun et le pasteur Marc Pernaud, se tiendra de 20h à 21h30, salle Monod, une conférence intitulée « Martin Luther ». Elle sera présentée par Philippe Budgen, professeur de philosophie à la Sorbonne. Entrée libre. Jeudi 8 février, hébreu biblique pour débutants de 19h30 à 21h par Christophe Siemenski, salle Verne. Répétition du chœur de l'oratoire de 19h30 à 22h avec Fabien Aubé, maître de chapelle, Alexandre Korovitch, piano. Salle Monod. Samedi 10 février, répétition du chœur de l'oratoire de 10h à 17h30, salle Monod. Parole et silence de 18h à 19h à la maison presbytérale, 4e étage, moment de partage autour de chants, de textes, prières et recueillements avec le pasteur Richard Cadou. Entrée libre. Dimanche 10 février, venez chanter à 9h30 au temple avec le maître de chapelle, l'organiste et le chœur pour répéter ou bien apprendre les psaumes et cantiques qui seront chantés pendant le culte. Bienvenue à tous. Culte à 10h30 par le pasteur Richard Cadou, Sarah Kim co-titulaire à l'orgue et chœur sous la direction de Fabien Aubé. Garderie aux 4 rues de l'Oratoire. Éducation biblique à 10h30 pour l'éveil biblique, les enfants de 4 à 7 ans, jusqu'à midi à la maison presbytérale. L'école biblique pour les 8-11 ans et le catéchisme 12-15 ans ne pourront être assurés ce mois-ci. Accueil et rencontre à l'issue du culte dans la grande sacristie. Vente de gâteaux par les éclaireurs à la sortie du culte. Dimanche après-midi de l'oratoire de 12h à 15h30 et ce sera la visite du temple de l'oratoire organisée par Laurence Tardy. Rendez-vous à la fin du culte avec un pique-nique sur inscription préalable si possible pour une meilleure organisation. Jeudi 15 février, présentation du livre « Les diaconesses de Reuilly » à livre ouvert. Cette présentation sera suivie d'un échange avec les auteurs Karine Bouvatier et Frédéric Casadessus et deux sœurs. Entrée libre, maison presbytérale, 4 rue de l'Oratoire. Le livre, je vous signale que le livre est déjà en vente à la librairie à l'entrée du temple. Ne manquez pas de vous y arrêter en sortant. Concert spirituel, toujours le même jour, concert spirituel intitulé « L'arme d'Éternel » de 18h à 19h au programme la cantate BWV 12 de Jean-Sébastien Bach, le reniement de Saint-Pierre de Marc-Antoine Charpentier, des motets anglais et allemands de Bennett, Wildby, Schein, Schultz, Sell, Hammerschmidt et Homilius. Tout ceci par l'ensemble Enouline Dallet, dirigée par Fabien Aubé. Méditation, libre participation aux frais. Ce concert est organisé par les Amis du Temple et de l'Orgue de l'Oratoire du Louvre. Je vous suggère de venir nombreux. Le dernier concert donné par Fabien Aubé et l'ensemble Enouline Dallet a connu un très vif succès. Avant de nous quitter, une dernière annonce. Suite à la disparition de Madame Rose-Marie d'Hurlemann, bien connue de nombre d'entre nous et dont la vie a été étroitement liée à l'œuvre de la cause. Un culte d'action de grâce, présidé par le pasteur Florence Taubman, aura lieu ici même à l'oratoire samedi prochain, 10 février à 15h. Vous y êtes tous conviés. Enfin, ces annonces ne sauraient être complètes sans une pensée amicale et très fraternelle adressée à notre pasteur Marc Pernaud, pensée accompagnée du souhait de son retour parmi nous dans les meilleurs délais. Bon dimanche à tous.
Je vous invite maintenant à la prière d'intercession. Dieu notre Père, puisque tu nous invites à te présenter nos demandes, garde-nous de te demander quoi que ce soit pour nos propres intérêts, pour notre propre satisfaction. Assiste-nous par ton esprit dans cette prière. Veille sur notre communauté, notre église locale, faisant une église qui manifeste ton nom en vérité. Garde-nous des divisions, des jalousies, des rivalités. Viens restaurer notre unité. Rends-nous un peu moins stupides que les Galates et un peu moins dépravés que les Corinthiens. Veille sur ton Église universelle, sur nos frères et sœurs partout dans le monde. Fais-la grandir dans l'union à Christ et que dans cette communion, elle trouve la guérison de ses blessures et de ses déchirures. Prends soin de nos frères et sœurs qui sont persécutés partout dans le monde. Seigneur, veille sur notre monde qui gémit encore dans les douleurs de l'enfantement. Bénis celles et ceux qui, dans ce monde, s'engagent pour la justice, la paix et la vérité. Et je vous invite à continuer notre prière avec les mots que Jésus nous a enseignés. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, l'espérance qui nous tient ensemble est un secours et une force pour chaque jour de la vie. L'espérance est patiente, elle traverse le temps et les épreuves du quotidien. Mais l'espérance est aussi impatiente, elle est toujours tendue vers un lendemain qu'elle attend et qu'elle salue à l'avance. Alors soyez donc à la fois enracinés et fermes dans l'espérance au cœur de ce monde. Soyez patients et impatients, soyez libres, joyeux et confiants, vous qui êtes appelés à protester de votre foi avec amour au nom de celui qui vient, celui que Christ dans l'Esprit nous rend présent. Oui, que le Dieu de l'espérance vous comble de joie et de paix dans la foi, afin que vous débordiez d'espérance par la puissance du souffle, et qu'en tout temps, Dieu vous bénisse et vous garde. Allez et demeurez dans la joie et dans la liberté de Dieu. Amen.